Alors, on va parler de quoi en fait aujourd'hui un petit peu? Vous savez? Pas manger, non? Il y avait des arcs et des flèches, et un gars qui était prêt à tirer, et puis la chasse. Alors, on va parler un peu de chasse. Et en même temps, ici, il y a quand même un truc intéressant. Je disais qu'il y avait des éléments de réflexion. C'est pas parce qu'on devient chasseur que tout est permis. Même si vous avez un permis de chasse, on risque d'avoir de sacrées surprises parfois. Enfin, le mammouth n'est pas content. Suivant. Donc, la chasse, c'est bien. Et parfois, alors, on va employer des moyens qui ne sont pas tout à fait proportionnés à ce qu'il faudrait faire. Et si on va à la chasse au canard avec ce genre d'outils, ben, ma foi, on l'aura peut-être touché, mais je ne sais pas ce qui va rester. Et essayez pendant ce temps-là de laisser Dieu faire des connexions avec des parallèles dans la vie spirituelle. L'objectif, c'est sympa. Et en même temps, laissez Dieu faire des connexions. Spirituellement, ça peut vouloir dire quoi? Alors ça, c'était juste pour le fun, c'était joli. Un grand chasseur redoutable. Suivant. Quel gibier chasses-tu? Quand tu vas à la chasse spirituellement, qu'est-ce que tu chasses comme gibier? Et c'est intéressant de voir qu'avec une seule flèche, on peut tuer, quelques flèches, on peut tuer un buffle absolument gigantesque. Laissez toujours travailler les choses en arrière-plan. Hein. Question suivante. Quand on va à la chasse, eh ben, y a un petit souci parfois. C'est qu'il se présente pas mal d'opportunités. Est-ce qu'on peut courir après deux objectifs à la fois? Qu'est-ce qui se passe? Petite image suivante. Parfois, ce qui arrive n'est pas ce qu'on attendait depuis longtemps. On a cherché des choses et puis ce qui arrive, bof. Ça nous laisse un peu pantois. Et petite image suivante. Alors, Tartarin de Tarascon, pour ceux qui connaissent. Qui ne connaît pas Tartarin de Tarascon? Ok. Alors, c'est un monsieur dans le sud de la France dont on parlait, dont Alphonse Daudet a fait tout un livre. Et c'est un monsieur, il a beaucoup chassé, mais dans ses rêves. Il s'est imaginé plein de choses. Finalement, il a réussi à tuer un pauvre vieux lion apprivoisé, le prenant pour un animal terrible. Voilà. Donc, un chasseur chasse. Certains procrastinent, c'est-à-dire qu'ils remettent au lendemain certaines choses, d'autres fabulent. Ils s'imaginent. Car quand un chasseur chasse, il ramène quelque chose. Et un chasseur qui ne ramène jamais rien n'est pas un chasseur. Alors, qu'est-ce qu'on va chasser? Page 14. On va rechercher la présence de Dieu comme un chasseur recherche. Chasse. Je me suis mis dans les beaux draps avec ces chassés. C'est pratique, hein, ça fait de l'élocution francophone. On recherche la présence de Dieu comme un chasseur recherche, comme il chasse. Alors on peut chasser à l'affût, en pistant, avec des rabatteurs, c'est-à-dire avec d'autres personnes. Mais il faut connaître le terrain dans lequel on va, connaître ses limites, connaître sa proie. Et laissez-vous imprégner de tout ce qu'un chasseur doit faire quand il veut chasser. Il ne peut pas y aller habillé comme tu es habillé ce matin, là, cool. C'est juste pas possible. Mets-toi en chasse. Non, mais chasser, c'est un peu bizarre. En fait, ici, le mot chasser, ça voudrait dire plutôt être dans une recherche active de Dieu. Parce que parfois, il dit qu'il faut chercher Dieu, mais en fait, réellement, quelle est l'énergie qu'on dépense à chercher Dieu? Et on dit, mais c'est quand même bizarre, chercher Dieu, il est partout. Oui, j'aimerais juste rappeler le proverbe 25. Dieu dit, c'est la gloire de Dieu de cacher les choses, et c'est la gloire des rois de les chercher. Dieu s'amuse à cacher. Parce que parfois, quand on découvre une chose, c'est comme si elle devenait nôtre. On se l'approprie. Et j'ai compris ce truc-là. C'est à moi. Vive les micros sans fil. Intimité. Jusqu'où vas-tu la poursuivre? Quels sont tes buts, tes objectifs? Long terme, moyen terme, court terme. Donc là, je suis un peu clinique. Mais qu'est-ce que tu es prêt à investir? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour chercher cette présence de Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à thésauriser? C'est-à-dire à mettre en valeur. Là, tu cherches un trésor et tu le mets de côté. Alors, on va juste prendre un exemple. On parlait pas d'agriculture tout à l'heure. Alors, prendre un agriculteur, par exemple, moyen terme, sur une année, par exemple, ça va être de récolter du blé. Bien sûr, le blé, c'est pas juste pour le récolter, pour faire joli, c'est parce qu'il aura à manger, de l'argent avec. Donc, mais l'objectif sur l'année, c'est de récolter, d'avoir de quoi manger, nourrir sa famille. Maintenant, à court, c'est ce que c'est ce qu'il va faire à moyen terme? Non. Court terme, il va labourer. Après, un autre objectif à court terme, ça va être semer, éventuellement traiter. Et après, il attend. C'est pas écrit dedans, mais il faut qu'il attende un certain temps. Après, il va moissonner. Et pour finir, vendre. Donc, c'est du court terme. Maintenant, pour le long terme, ça peut être quoi? Ça peut être nourrir des milliers de personnes. Alors, c'est sûr que sur l'année simplement qui vient de passer, l'agriculteur a juste vendu son blé. Ou bien il veut ouvrir un centre de formation à l'agriculture. Voilà ce qu'il veut. Ou bien il veut laisser sa famille et bénir d'autres autour de soi. Ou bien développer une nouvelle technique. C'est bien beau de tirer la charrue, mais j'aimerais envie de retrouver une nouvelle technique. L'autre jour, aux infos, je regardais un reportage sur des agriculteurs. J'étais intéressé de voir qu'il y en a qui ne labourent plus la terre. Ils ont retrouvé des anciennes techniques. Ils laissaient les vers de terre faire tout le travail. Ils ne labourent plus la terre et le rendement était le même. Mais sauf comme ils font moins de travail de passage, eh ben, ils ont beaucoup plus d'argent. Ils ont mis à jour une ancienne. On va aller à page 19, donc tu peux cliquer la suivante. Alors, chasseur de Dieu, c'était un terme que moi qui me plaisait pas trop. Et c'était un livre de Tommy Tenney que j'avais pas lu et que j'ai toujours pas lu. Mais ce titre me dérangeait. Comment est-ce qu'on pouvait chasser Dieu? Et ça m'a interpellé pendant un temps, jusqu'à peu, où je me dis, mais ben oui. Et en fait, ce ne sont pas les personnes qui veulent être seulement touchées par le début, par l'apparence, mais qui vont vouloir connaître les profondeurs de Dieu. Ils vont se mettre en chasse. Et parfois, avant que tu te mettes en chasse, il faut que quelque chose se passe dans ta vie où tu es un petit peu dérangé. Et dans ta vie, il se passe parfois plein de choses. Tu as pris une certaine théologie, il se passe plein de trucs. Et parfois, tu te dis, mais ça ne colle pas entre ce que je comprends, ce qu'on me dit et ce que je vis. Il y a des dissonances, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ça ne joue pas. Et tu combats avec ces idées. Parce que tu te dis, mais comment ça se fait? Et on a tous vécu des choses où quelque part, on a été remis en cause dans ce qu'on croyait. Par exemple, on était là dans l'église, on était il y a longtemps en arrière, c'était les femmes n'avaient pas le droit de prêcher. Mais il y avait des dissonances, parce que quand tu voyais les femmes prêcher, tu voyais que c'était bon. Tu dis, mais alors, il y a un problème. Il fallait porter le voile. Maintenant, les femmes ne portent plus le voile. Donc il y a parfois des choses qui arrivent dans ta vie où tu es juste dérangé. Et je vais prendre deux exemples là-dessus. Donc si ton expérience contredit ta théorie, peut-être faut-il réviser ta théorie. Alors, deux exemples. Le premier, c'est des Amish, Jack et Steve Lapp. Ils ne connaissaient rien à la délivrance. Ils ont délivré des personnes. Et après qu'ils aient vécu la délivrance, ils sont rentrés dans le processus de comprendre ce que c'était. Mais Aaron leur a dit, ça n'existe plus. Et ce que j'ai mis en dessous, alors ça fait actuellement le buzz, plus ou moins, comme on dit sur le net. Ils se sont rendus compte qu'au niveau du FMI, ils ont fait de sacrées bourdes avec des formules, qu'ils ont mis des colonnes dans des calculs, que leurs formules étaient erronées. Et de ce truc-là, on a mis plein de gens, on leur a dit qu'il faut faire de la récession. Et c'est bien pire que ce qu'ils avaient imaginé. Et ils sont en train de se rendre compte, le FMI le sait depuis des mois, ils ont dit, on a fait des erreurs, mais ils ne changent pas la donne. C'est intéressant de voir qu'on peut faire des erreurs à un niveau incroyablement élevé et ne pas changer. Est-ce que tu es prêt à changer? Alors quelqu'un va me dire, mais moi je suis dans la vie réelle, tu me parles de rencontrer Dieu, c'était sympa le temps avec la plage, le sable, mais... Et alors j'ai pris un autre exemple, c'est un gars qui s'appelle David, et lui, sa vie réelle était terrible, il devait lutter. Et alors qu'il devait lutter, préparer ses armées, élaborer ses stratégies, il faisait un truc, il allait consulter l'Éternel. 23-2, 23-4, 38, 2-1, 5-19. À chaque fois, David pose une question à Dieu. Est-ce que je vais monter dans ce combat? Hier, je leur ai mis la pâtée, c'était super. Est-ce que je vais remonter à la bataille? Et David prenait du temps pour aller consulter Dieu. Alors, il essayait d'établir le royaume de Dieu en Israël. Il avait des combats. Mais il prenait un temps pour faire quoi? Aller à la rencontre de Dieu. Est-ce que tu es prêt à déposer certaines choses pour aller à la rencontre de Dieu? Parce qu'à ce moment-là, la présence de Dieu devient tangible dans ta vie. Et il y a une incarnation qui se fait. Quelque chose va être bouleversé. C'est pas Dieu, c'est toi d'abord. Et pour David, c'était tellement réel que il avait des victoires simplement parce qu'il consultait Dieu. Et Dieu lui donnait des stratégies. Alors, pour chercher Dieu, il y a un truc, c'est être focalisé sur lui, c'est comme le chasseur. Quand le chasseur va à la chasse, il cherche un objectif, une proie, et il se dit, maintenant je vais tuer cet animal-là. Et il le cherche. C'est décidé de trouver un chevreuil. Il ne cherche pas les lapins, ça ne l'intéresse pas. Il veut un chevreuil. Alors c'est une image, un dessin de Chagall. Vous voyez ce qu'elle représente ou pas? C'est l'histoire de Élie et Élisée. Élisée va demander un truc à Élie. Il dit, moi je veux la double onction, je veux ça. Et Élie lui avait dit, ok, tu veux ça? Alors il faut que tu marches avec moi et que tu me vois au moment où je vais être enlevé. Que tu me vois, que tu aies les yeux fixés sur moi au moment où moi je vais être emmené au ciel. Et le divin est arrivé à ce moment-là. Quelque chose d'incroyable s'est passé dans le ciel. Un chariot de feu est arrivé. Et alors que le chariot de feu est là, qu'est-ce qu'on aurait tous fait? Quand un chariot de feu se promène dans le ciel, à côté de toi, tu fais quoi? Tu regardes. Si tu fais ça, s'il avait fait ça, il avait loupé la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'au même moment, un vent est venu, un tourbillon est venu et a enlevé Élie. Élie n'est jamais monté dans le chariot de feu. Le test pour Élisée était, est-ce que je vais continuer à regarder Élie, même si un truc tellement énorme me passe au-dessus de la tête, que j'ai envie de faire, c'est de le regarder. Et Élie a été emmené dans ce tourbillon et Élisée l'a continué à le regarder. Et à ce moment-là, il n'a pas détourné le regard vers quelque chose d'incroyablement puissant, qui était devenu de Dieu, il a continué à regarder Élie. Et à ce moment-là, le manteau a été pour lui. Quand je dis être focalisé, c'est regarder les choses jusqu'au bout. Et en même temps, il y a cette idée de marcher dans la révélation des autres. Élisée reconnaissait que Élie avait une sacrée onction. Il a honoré cet homme jusqu'au bout, il l'a servi. Et c'était intéressant pour moi samedi dernier quand on a prié, on avait mis les jeunes devant. Et c'était bien. Mais à un moment donné, on s'est retourné vers la salle et tous les jeunes, on a étendu les mains vers les les adultes, les pères et les mères. L'onction a été montée d'un sacré niveau tout d'un coup. Et on rappelle notre Nathanaël qui s'est retrouvé propulsé là-bas contre le mur. Les trois personnes là-bas ont dû bouger. Juste parce qu'à un moment donné, on a tourné le regard vers les pères. Alors, personnellement, on a cherché Dieu dans l'église, bien sûr, dans tout ce qui se fait confessionnel, dans les séminaires, dans les rencontres, des voyages. Et je me rappelle que une des choses qu'on nous disait souvent avant, alors moi ici, parce qu'on est ici, c'est pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller là-bas ? Dieu elle-même ? Vous ne croyez pas que Dieu elle-même ici et là-bas ? Qu'est-ce qu'on peut... Pourquoi vous allez là-bas ? Je crois que Dieu répond vraiment à ta soif. Juste que tu es prêt à investir. Parce que si moi j'estime que je n'ai pas assez, il faut que j'aille où ? Vers ceux qui ont plus. Et c'est vraiment une invitation à aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, à investir Dieu, à ne pas hésiter à marcher. Parce que je peux grandir tout seul, mais je peux grandir bien plus au contact des autres. Dieu répond à ta soif. Alors ça, c'est une carte du temps de Jésus. On peut reconnaître un peu en les couleurs violettes, différentes choses. Mais beaucoup des gens qui ont été bénis, guéris du temps de Jésus, vous savez quoi ? Ils ne restaient pas sur place. On ne va pas lire tous ces passages parce qu'il y en a énormément. Matthieu 4, 24, 25, 9, 35, Matthieu 14, 53, 35, 36, Matthieu 15, Marc 6, Marc 7, Luc 5. Il est dit dans plusieurs de ces passages que, par exemple, j'ai mis la petite flèche en haut, au côté du lac de Galilée, il dit que des gens, Jésus était là-bas, il prêchait, il enseignait, il guérissait, et des gens venaient de où ? Le point bas, en bas, c'est la Judée. Et ils allaient voir où était Jésus. Il y en a qui venaient de l'autre côté du Jourdain, c'est le point qui est là à droite. La Décapole, couleur orangée. La région de Galilée, bien sûr. Et même en haut, la Syrie. Jésus rayonnait de manière incroyable sur toute la région. Maintenant, soyons concrets. Aujourd'hui, 2 heures de route, 3 heures de route du nord au sud à peu près. Si on prend l'avion ou le train, voilà. À l'époque, combien de temps les gens devaient investir pour trouver Jésus ? Et il est dit qu'il y avait des gens qui arrivaient estropiés, boiteux, aveugles, avec toutes sortes de problèmes, des infirmes. Quand tu es en Judée et que tu sais que Jésus est en Galilée, tu as tes 150 km à faire, à pied. Combien de temps tu vas mettre ? Et ces gens étaient assoiffés de Dieu. Ils cherchaient Dieu tout leur cœur, toute leur âme. Ils marchaient. Ça leur a pris des journées de fatigue. Alors parfois on se dit, waouh, mais nous on va à l'autre bout du monde. Ouais, on y va un jour en avion. Ils ont investi et ils ont reçu, ils ont été guéris. Et une fois qu'ils étaient sur place, en plus c'était pas marqué ici, centre Jésus, première porte à droite, tout le monde y est. Pas de panneau. Jésus avait en plus l'habitude de se promener dans les collines. C'est quand tu arrivais là-bas, c'était encore de nouveau un jeu de cache-cache. Où est Jésus ? Et les gens devaient marcher. Et ce qui était, si vous relisez les passages à la maison, vous pourrez, mais pas là. J'aimerais juste aller un peu plus vite. Il est dit que non seulement les gens venaient, qui c'est qui venait avec aussi les gens ? Les pharisiens. Ils faisaient la même route. Il est dit que les pharisiens montaient de Judée, de Galilée, de toute la région. Ils venaient voir Jésus et tous les autres. Et alors qu'ils marchaient, qu'ils s'approchaient vers l'endroit où était Jésus, ils rencontraient des gens être guéris. Ils rencontraient cette incroyable onction qui bouleversait la région. Quel a été le regard des pharisiens ? Est-ce qu'ils ont été changés ? Non seulement ils n'étaient pas changés, mais après avoir fait tous ces kilomètres, ils sont plusieurs fois repris. Mais au fait... Vous ne lavez pas les mains là ? Il y a un problème. Vous lavez pas les mains. Et les pharisiens commencent à dire, mais pourquoi toi et tes disciples, vous ne respectez pas les traditions des ancêtres? Et Jésus leur a dit, mais ok, pour vos traditions, mais le commandement de Dieu, vous en faites quoi? Donc tu peux aller marcher très loin, être dans le même endroit et ne pas être changé. Parce que ta soif n'est pas celle qui devrait être. Alors des gens sont changés. Abraham a rencontré Dieu, a été changé. Moïse, Gédéon, Élie, bien sûr Jacob, je reviendrai sur celui. Mais vous vous rappelez du réveil au Pays de Galles, il a commencé avec quoi? Un gars qui avait une telle soif de Dieu qu'il a été visité par Dieu et la vie de toute la région a été changée. Des milliers, des centaines de milliers de conversions en très peu de temps. Et de là est parti le réveil à The Street, le réveil de Pentecôte qui existe toujours aujourd'hui. Là-dedans, on parlera d'un monsieur qui s'appelle John G. Lake qui a été touché. Il a rencontré Dieu, il a visité par Dieu. Et alors qu'il rencontre Dieu, en 5 ans, 1 million de conversions. Smith Wigglesworth, début du siècle aussi. C'est un plombier. Qui c'est qui connaît tous ces noms-là? Pas beaucoup de monde. Ah, pas mal. Ok. Lisez leurs bouquins. Investissez. Apprenez. C'est un plombier. Et quand il devait aller quelque part pour prêcher, c'est sa femme qui prêchait, lui se cachait au fond. Et puis un beau jour, il va rencontrer cette présence de Dieu. Et sa vie va être complètement bouleversée, changée. Catherine Kuhlman, Heidi Baker, Bill Johnson. La question que je me suis posée avec tout ça, c'est, on parle toujours des autres, comme si c'était des exceptions. Mais est-ce que ces exceptions ne sont pas les exceptions, mais c'est juste une indication de ce qu'il est possible de vivre? Moi, je ne crois pas que ces gens-là aient tous vécu des trucs tellement incroyables et que nous, là, on est en train de baver en se disant, mais, waouh, qu'est-ce que c'était magnifique chez eux, et moi alors? Et parfois, il faut juste ne pas dévaloriser nos expériences. L'expérience que Denis a rapportée ce matin avec Géraldine, est-ce qu'elle a un moins haut niveau que celle de Jacob, qui a rencontré des anges? C'est le même. On ne doit pas dévaluer ce qu'on a reçu, dévaloriser. Il faut juste commencer à croire que c'est possible pour nous, que c'est possible pour nous. Que dans notre pays, les choses peuvent changer. Et ce n'est pas que les autres qui le disent, que nous aussi, on peut commencer à le croire. Que quand j'ai une visitation d'un ange, ce n'est pas juste un petit rêve qui dure pendant 2 minutes et après le reste de la semaine, ben c'est fini. On veut rentrer dans ce miraculeux avec Dieu. J'aime beaucoup la première les deux introductions de Pierre, dans 1 Pierre 1 et 1 Pierre 2. Quand tu vois ce qu'il commence à écrire, quand il écrit à l'église, c'est juste fantastique. Et à un moment donné, dans 1 Pierre 2, il va dire « à ceux qui ont reçu une même foi que la nôtre ». Alors parfois, on imagine la foi des apôtres étant tellement énorme. Et Pierre dit « on a la même. On a la même. Ne regardez pas avec envie celle des apôtres. On a la même foi. » Ou alors, il faut barrer le verset dans la Bible. On l'enlève, on le découpe et on le jette à la poubelle. Après, on va rapidement survoler parce que dit, mais Jean, Jésus qui dit, mais quelqu'un qui m'aime, je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Il y a une idée de se révéler. Si quelqu'un m'aime, c'est-à-dire que tu connais déjà la personne. Tu as déjà fait une démarche avec la personne. Tu la connais. Il y a quelque chose, il y a une alliance qui a été faite. Eh bien, si tu es dans cette alliance-là, j'irai beaucoup plus loin avec toi. Psaume 63, on l'a chanté un peu. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. J'ai besoin de toi, Dieu. J'ai besoin de toi. Et puis, dans Jérémie, Dieu qui va dire, mais je me laisserai trouver par vous. Psaume 14. Regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Et ici, l'intelligence, c'est qui cherche Dieu. Psaume 34, l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Parfois, on a l'impression que ça va tomber tout cuit et Seigneur, au secours. Dieu dit, mets-toi en marche. Mets-toi en marche. Psaume 53, c'est pareil. Psaume 7, 8. Quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve. Parabole du royaume des cieux et des perles. Luc 11. Matthieu 6. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Apocalypse 3. Révélation 3. Je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. On ne parle pas ici d'un truc qui se passe à l'église. On parle de Dieu qui dit toc, toc, toc. Et je rappelle que Révélation, donc l'Apocalypse, ça parle à des gens qui sont déjà chrétiens. Donc ce n'est pas une histoire de conversion. Il dit voilà, je veux te parler. Si tu veux bien prendre le temps d'écouter, je ferai un truc avec toi, je vais manger avec toi. Je resterai dans ta demeure. Je souperai avec toi. Parabole des fils, des invités, Matthieu 22. Alors parfois on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut pour rencontrer Dieu? Ben rien. La chose caractéristique, c'est avoir faim et soif de Dieu. Faim et soif. Et être focalisé. J'ai peut-être faim et soif, mais si j'arrête pas de tirer dans tous les coins, je vais rien avoir du tout. Je prends un exemple concret. Par exemple, il y a le séminaire L'Âme. Isabelle a dû traduire tous les documents. Pour l'instant, vous étiez moins présente à l'église que l'autre fois. Pourquoi? Parce qu'elle a dû traduire un tas de documents. Elle savait que l'objectif, c'était l'âme. C'était pas juste venir à des réunions. Et elle a traduit patiemment. Et traduire des écrits, traduire oralement, c'est une difficulté, mais on arrive toujours à faire comprendre ce qu'on veut. Quand il faut traduire, je me trompe Isabelle? Quand il faut traduire à l'écrit, garder, alors que les mots ne sont pas dans le même sens, les remettre dans le bon sens, et donner la bonne... C'est terrible. Quel boulot, parce qu'elle dit, voilà, j'ouvre une porte sur la terre pour les mariages en France. Quelque chose va bouleverser la terre là où je suis. Et je parle d'Isabelle parce qu'elle a fait le travail de la traduction, mais toute l'équipe qui était là, ils étaient focalisés. Alors ils ont fait moins de rencontres, étaient pas bien, mais en même temps, qu'est-ce que je veux? Alors Jacob, on va parler de Jacob. Alors c'était un gars qui était vraiment spécial. Hein. Je rappelle que Jacob veut dire voleur, manipulateur, tricheur, tout ça. Mais il était un chasseur de Dieu. Il voulait la bénédiction à tout prix. Et toi, est-ce que tu es déjà rassasié? Alors, il avait déjà réussi à avoir le droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Ésaü n'était pas attaché à la bénédiction. Il ne cherchait pas Dieu d'une manière incroyable. Et après, rappelez-vous, il avait cette histoire où il va tromper son père pour avoir la bénédiction du fils aîné. Et il l'a reçu. Après cela, le frère n'est pas content et la mère l'apprend. Alors elle va appeler Jacob et dit, écoutez, Jacob, il y a un problème ici, les femmes, c'est moyen. Va, pars d'ici. Et qu'est-ce qui se passe? Isaac appelle Jacob, il le bénit encore une fois. Il a déjà reçu trois trucs, ce gars-là. Il n'a rien, il cherche et il reçoit. Et ça semble injuste, un tricheur qui reçoit encore une bénédiction en plus. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan, lève-toi, va dans la maison de mon père. Verset 3, que le Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multiple de peuples. Qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Il dit, waouh. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour l'instant, Jacob? Oui, il cherche la bénédiction à tout prix. Et je ne sais pas si à la place de Jacob, je serais parti aussi loin. Sinon, quand on va voir notre fils ou notre fille, on dit, écoute, ici, en Alsace, hein, les femmes, elles ne sont pas tellement bien. Hein, d'accord, faut que tu retournes en Italie. Hein. Là-bas, il y a des jolies filles, hein, et puis tu les prends dans la famille, hein, parce que ici, il ferait quoi l'autre fils là? Écoute, tu te mets le ski, te regarde un petit peu là. C'est sympa les filles, mais bon. Et ce gars-là, il part, il obéit, il rentre dans ce que son père lui a dit, et il va partir. Même Isaü a compris que peut-être il ferait bien de changer. Et puis, il arrive dans un endroit, page 32, il passe la nuit qui était là, et il se passe un truc, encore une fois, il a été béni, et là, Dieu vient le visiter. Est-ce qu'il a fait quelque chose de spécial? Non. Il a juste posé la tête sur un caillou et Dieu le visite. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait si moi j'avais eu un endroit où Dieu était là. Et Dieu, il se rend compte que c'est un endroit spécial. C'est ici la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Il sait qu'il a un truc à chercher, c'est sa femme. C'est un chasseur. Verset 18, j'ai bien aimé, parce que parfois on fait des trucs bizarres, et puis j'ai vu qu'ils avaient versé de l'huile sur le monument. Je ne savais pas que ça existait dans la Bible, qu'ils mettent de l'huile sur les pierres. Ça m'a rassuré, parce que parfois on fait des trucs bizarres dans l'intercession. Et oups. Et il continue. Il se met en marche. Il va arriver. On va aller à la page 35. Et là, il va rencontrer Rachel. Et la rencontre fait qu'il se trouve complètement bouleversé. Un gars qui est prêt à marcher dans des pays contrées arides, seul. T'as déjà marché seul dans la nuit? Dormi seul? C'est pas très rassurant. Hein. Il arrive là-bas et qu'est-ce qui se passe? Il rencontre une jeune fille et il se met à pleurer. Il savait que quelque chose avait changé. Il avait commencé à savoir que ce qu'il voyait arriver. Et il va, on va aller un peu plus loin. On se rend compte qu'il va rencontrer Rachel, page suivante. Son père lui propose de travailler, de faire plein de trucs. Il ne va pas non plus avoir ce qu'il voulait. Rappelez-vous que parfois, quand on a des objectifs, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et au bout d'un temps, page suivante, Dieu lui dit, verset 31, retourne. Voilà, je vais être là-bas avec toi aussi. Et on arrive à Genèse 32. Et là, 32:1, Jacob est là son chemin et des anges de Dieu le rencontrent. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Il dit, waouh, quelle bénédiction! Ça ne lui suffit pas. Il ne veut pas quelque chose d'inférieur. Il veut Dieu. Un peu plus loin, dans le même chapitre, c'est l'histoire où il va lutter durant toute la nuit. Il va lutter. Moi, je ne sais pas, j'aurais lutté toute la nuit. Et finalement, il va être frappé et blessé. Il n'est pas ressorti indemne de sa rencontre avec Dieu. Et il va être béni. Il a été changé. Et cette rencontre avec Dieu va changer les choses autour de lui. Très rapidement, un autre homme qui, Moïse, il est dit à un moment donné, je ne sais plus quel chapitre, zut. Je crois que c'est 33. Il dit que Moïse parlait comme un ami avec Dieu. Est-ce que tu voudrais qu'on te parle de toi comme ça? Je suis, waouh, Moïse parlait avec Dieu face à face. Mais ça ne lui suffit pas. Plus loin, il dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il voulait plus de Dieu. Et nous, on veut plus. On veut plus. Et je sais que ici, quand je vous vois, et tout à l'heure dans la louange, je voyais des chasseurs être sur leur en train de chasser. Il n'y a pas que moi qui chasse ici. Vous êtes des chasseurs. Je disais l'autre jour, quand on était chez Marguerite et Heinz, ils prennent tout le temps de l'après-midi pour que cette présence de Dieu imprègne la maison au moment où la cellule arrive. Ils étaient en recherche de la présence de Dieu. Simplement à amener l'atmosphère du ciel sur la terre. Rusty et Janet, donc vous savez qu'ils ont été à Bethel. À 60 ans, ils étaient responsables dans l'intercession, dans l'écrivain, dans la louange. Et à 60 ans, ils vont faire 3 ans de formation. Ça semble stupide. Engager des sommes folles pour chercher Dieu. Alors peut-être que soit c'est pas ton truc d'aller à Bethel. Ok, cherche Dieu dans la nature, fais ce que tu veux. Mais cherche Dieu plus que toute autre chose sur la terre. Cherche Dieu, aie faim et soif de Dieu. Jésus. Papa, moi je veux que tu répondes maintenant à la soif de ceux qui ont faim et soif de toi. Tu sais ce qu'il y a dans leur cœur. Il y a cette faim, il y a cette soif. Il y a ce désir de te connaître. Il y a ce désir d'aller plus loin avec toi. Il y a ce désir de vivre les rêves avec toi. Il y a ce désir d'être en marche avec toi dans le quotidien. Il y a ce désir d'être avec un papa. Il y a ce désir de voir le miraculeux, ton royaume qui descend du ciel sur la terre. Papa, quand je te prie de répondre à la soif, de répondre à la soif, de répondre à la soif, d'ouvrir les yeux de ceux qui ne voient pas, d'ouvrir les oreilles de ceux qui n'entendent pas, de guérir les cœurs qui vont être guéris. Réponds à ta soif. Et en même temps, papa, je te prie de susciter une soif qui ne s'éteint pas dans leur cœur. Je te prie de susciter une soif et une faim qui ne s'éteint pas. Qu'ils aient faim et soif du royaume jusqu'à la fin de leur vie. Que durant toute leur vie, ils aient faim et soif de ton royaume. Qu'ils soient affamés et assoiffés. Et alors que tu leur donnes à manger, qu'ils ne soient pas rassasiés, mais qu'ils recherchent toujours plus. Alors que je prie pour eux, je te prie aussi pour moi. Je prie aussi en tant que corps, qu'on arrive à rentrer ensemble dans cette marche vers toi papa. On se laisse imprégner par tes profondeurs. Imprégner, imprégner. Jésus. Et prie maintenant que la pluie tombe sur nos vies. Amen, papa.